La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Vinciane Colson au micro. Focus sur le Burundi ce soir, un pays touché par une répression gouvernementale depuis près de 2 ans. En avril 2015, les Burundais sont en effet sortis dans les rues pour protester contre la candidature du président burundais, Pierre Nkurunziza, à un troisième mandat. On va s'intéresser ce soir à la situation des droits de l'homme dans le pays, une situation jugée catastrophique par la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, qui estimait dans un rapport il y a quelques mois qu'on était à la veille d'un génocide dans le pays. On va en discuter ce soir avec nos deux invités en studio. Bob Rugurika, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste burundais, directeur de la RPA, la radio publique africaine, aujourd'hui donc en exil. À vos côtés, Jean-Daniel Ndikumana, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc burundais également, mais réfugié en Belgique depuis 2013 déjà, et vous êtes animateur au sein de la Maison Arc-en-Ciel du Luxembourg. Avec vous, on parlera plus spécifiquement des droits des personnes homosexuelles au Burundi. Et enfin, par téléphone, nous aurons Florent Gel, responsable Afrique au sein de la FIDH, donc la Fédération internationale des droits de l'homme. C'est lui qui a coordonné le rapport sur le Burundi dont on parlait il y a quelques instants. Alors, je le disais, il y a 2 ans, donc en avril 2015, les gens sont sortis dans les rues au Burundi pour protester contre le troisième mandat qui était brigué par le président. Bob Rugurika, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qui s'est passé en avril 2015 ?
Effectivement, comme vous le dites bien, en 2015, c'est le début et le déclenchement, je dirais, de cette grave crise dans laquelle le pays, le Burundi, est plongé. Et cela va faire bientôt 2 ans. Donc, la crise est née de la volonté du président en place actuellement, Pierre Nkurunziza, qui a voulu et qui y a brigué un troisième mandat présidentiel en violation de la loi fondamentale, la Constitution, en violation des accords d'Arusha, qui font partie intégrante de notre constitution, parce que ces accords stipulent bien qu'aucun président ne fera plus de 10 ans au pouvoir. Ça veut dire ne dépassera plus 2 mandats présidentiels en raison de chaque mandat à 5 ans. Donc, le président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, a vu ses 2 mandats expirer en 2015, et comme il avait préparé de se maintenir au pouvoir, c'est ainsi que lui-même il a déclenché cette crise. Et comme la société civile déjà avait senti venir cette volonté du président Nkurunziza, parce que ça se manifestait ça, à travers plusieurs faits et gestes du président, du parti au pouvoir, à travers les discours officiels, on avait déjà pressenti que le président planifie de se maintenir au pouvoir en violation de notre constitution. Donc, la société civile déjà avait initié une campagne, quelques mois même auparavant, une campagne dénommée Halte au troisième mandat. Et l'opposition politique, quant à elle, avait déjà signifié au président, au parti au pouvoir en place, que si le président venait à violer la Constitution en briguant un troisième mandat, elle appellerait aussi ses sympathisants à descendre dans la rue. C'est comme ça en fait que ça s'est passé. Le 25 avril 2015, le président, à la grande surprise de tout le monde et surtout de la communauté internationale, qui avait espéré que le président n'oserait pas violer la Constitution, le président Nkurunziza a annoncé que son parti l'a désigné pour briguer un troisième mandat. Donc, voilà ce qui a déclenché la crise. Et peut-être, comme on va en parler, la crise, d'abord, est née même au sein du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, avant d'être généralisée et surtout de toucher en particulier l'opposition et la société civile et surtout nos médias aussi indépendants.
Oui, et c'est vrai que vous le dites, au sein même du gouvernement, il y a un désaccord. En tout cas, il y a des membres du parti du président qui étaient contre ce troisième mandat.
Effectivement, on le voit à travers différentes pétitions qui ont été initiées d'abord, avant même d'être initiées au niveau de l'opposition et de la société civile. C'est au sein même du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qu'on a vu naître des pétitions, plusieurs pétitions qui s'adressaient au président de la République. Mais il n'a voulu écouter personne. Donc voilà, comme ça, il s'est entêté. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous voyez aujourd'hui parmi les exilés politiques de cette crise, on voit beaucoup de ses anciens compagnons de lutte. On voit par exemple ses anciens collaborateurs, le deuxième vice-président de la République, le docteur Gervais Rufsikiri. Il est en exil ici en Belgique. Il a fui cette crise liée au troisième mandat du président. Le président du Parlement, Pinavio Anima, il est aussi en exil. Sans parler d'autres, beaucoup d'autres officiers de l'armée, de la police, qui ont fui effectivement le président Pierre Nkurunziza, alors qu'ils étaient du même clan ethnique et de la même formation politique, le sein des DFDD.
Alors, on voit que donc, déjà avant, il y avait des prémices. Donc, effectivement, depuis avril 2015, il y a des manifestations, il y a une répression sanglante. Mais déjà avant ça, il y a eu des prémices et on voyait qu'il y avait des problèmes au Burundi. Et alors, vous en êtes tous les deux des exemples, parce que à la fois vous, Bob Rugurika, vous avez été emprisonné dès janvier 2015, libéré ensuite en février 2015. Et puis après, vous êtes parti dans la clandestinité. Et puis vous, Jean-Daniel, je le disais, vous êtes en Belgique depuis 2013, c'est-à-dire qu'à cette époque déjà, vous êtes parti du Burundi, vous avez été obligé de quitter le Burundi déjà à cette époque de 2013. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les raisons qui vous ont poussé, vous, à partir ?
Moi, les raisons qui m'ont poussé à partir, donc voilà. Il y a, comme j'ai dit, voilà, et là je suis pas tout seul, il y a aussi beaucoup donc des personnes voilà qui ont quitté le Burundi, parce que là on sait que le Burundi c'est un pays qui ne respectait pas les droits humains. Donc le 22 avril 2009, donc le président Nkurunziza, donc c'est lui-même qui a signé donc la loi voilà qui criminalise les homosexuels. Voilà, là cette loi donc stipule que une personne ait des relations sexuelles avec une personne de même sexe, donc et a la peine de 3 mois à 2 ans de prison, avec une amende de 50 000 à 100 000 francs. Alors, donc voilà, comme moi j'étais un militant, voilà, j'étais un activiste, voilà, qui défend les droits humains, voilà, je travaillais même dans un projet qu'on appelle projet Rimuruka, qui était donc financé par la Commission européenne. Alors donc voilà, moi j'étais contre donc la politique du gouvernement. Quand exactement on est toujours discriminé, on ne peut pas avoir les soins de santé correctement comme il faut. Parce que exactement, je peux pas aller dire à un prestataire de santé que j'ai eu des rapports sexuels avec une autre personne de même sexe que moi. Voilà. Là, moi j'étais contre. Alors voilà, je faisais des conférences partout où exactement je disais que je peux pas accepter à ça. Alors quand j'ai commencé à parler de ça, j'ai commencé à avoir donc des mandats d'arrêt d'abord chez moi. Voilà, parce que exactement, donc, voilà, moi, j'avais pas peur, donc, de parler ou bien de montrer, voilà, ce que je suis. Aussi, donc, voilà, j'ai été rejeté par ma famille, à part maintenant que ma famille, voilà, commence à m'accepter. Mais exactement, j'ai fait un grand travail pour que ma famille m'accepte. Voilà, là, j'ai été...
Oui, il y a un changement de mentalité aussi à faire, j'imagine, dans le pays. Il y a effectivement un problème de loi, et ça, c'est le problème principal. Évidemment, il y a un changement de mentalité aussi à travailler, sur lequel il faut travailler.
Oui, parce que beaucoup, dans beaucoup des homosexuels, tu vois, reçoivent des discriminations sociale et politique en même temps. Voilà. Donc, ça fait des semaines, il y a des jeunes qui sont en prison à cause de leur orientation sexuelle.
D'accord. Alors, donc, je le disais, depuis 2015, ça s'est quand même aggravé, ça s'est accentué, au point que donc la Fédération internationale des droits de l'homme, qui a mené une enquête dans le pays pendant presque 2 ans, a sorti un rapport en novembre 2016, un rapport qui est intitulé « Répression aux dynamiques génocidaires au Burundi ». Alors, on a interviewé donc le coordinateur de ce rapport, Florent Gel, donc responsable Afrique au sein de la FIDH, et on va l'écouter, il nous parle des raisons pour lesquelles ils utilisent ce terme génocide. Alors même si ils estiment qu'on est à la veille de génocide, on n'est peut-être pas encore dans un génocide vraiment, mais c'est un terme fort, mais ils expliquent pourquoi ils utilisent vraiment ce terme. On écoute.
On s'est vite rendu compte que la nature du régime politique au Burundi était passée d'une forme d'un régime autoritaire à un régime pratiquement autocratique, pratiquement un parti-État, qui utilisait tous les moyens à sa disposition pour se maintenir au pouvoir et qui activait notamment, déjà à cette époque, déjà à la mi-2015, qui activait les ressorts de l'ethnicisme, les ressorts également de la répression évidemment, mais aussi de l'ethnicisme et tous les leviers du pouvoir qui étaient à sa disposition, un pouvoir qui est complètement... contrôlé par le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, et qu'on avait tous les attributs au sein de l'État, tous les attributs d'un régime dictatorial, autoritaire et autocratique, et que cette conjugaison entre des dynamiques, des logiques politiques, la philosophie politique de ce régime et le fait qu'il ait toutes les manettes du pouvoir mettait en situation d'extrêmement grand danger les opposants politiques et en particulier les Tutsis qui sont la cible de la rhétorique du régime en place au Burundi encore aujourd'hui. On assiste en fait, si vous voulez, en termes de nature de répression au Burundi, à une répression qui ne sont pas des massacres de masse tels qu'on peut souvent se penser à un génocide, c'est-à-dire que on pense tout de suite évidemment au génocide populaire, massif, peut-être le plus important qu'on ait connu en termes d'intensité, à celui du Rwanda évidemment, où près d'un million de personnes ont été massacrées en 3 mois. S'il advient un génocide demain au Burundi, ça sera évidemment probablement pas le caractère d'un génocide massif. Pour autant, des gens disparaissent tous les jours au compte-gouttes pour passer sous le radar de la communauté internationale, pour le faire sans vague et pour continuer à servir le discours qui est le discours du pouvoir actuellement, qu'il y a une normalisation qui se fait au Burundi.
Alors Bob Rugurika, donc vous êtes vous en exil, mais vous êtes en contact encore avec des personnes qui sont au Burundi. Est-ce que effectivement vous avez l'impression que ces disparitions, elles sont réelles? Est-ce qu'il y a une peur au sein de la population aujourd'hui?
Bon, non seulement elles sont réelles. Tout d'abord, je voulais appuyer d'une façon très renforcée les propos de Florent Gel, parce que ça reflète vraiment la réalité en cours au Burundi. Nkurunziza c'est bien préparé pour cette répression. Alors, non seulement elle l'a préparé, mais aussi elle est en train de l'appliquer d'une façon systématique. Alors, dire que aujourd'hui il y a des gens qui auraient peur, ou bien qu'il y a des gens qui disparaissent, c'est une vérité. C'est de la réalité au Burundi. Aujourd'hui, le Burundi est devenu en fait une vaste prison. Il n'y a plus de médias indépendants qui sont autorisés à travailler. Il n'y a plus de journalistes étrangers qui peuvent aller couvrir la situation en cours. Il n'y a pas d'observateurs, parce que le gouvernement continue toujours à rejeter toute demande de la part des Nations Unies, de la part de l'Union africaine, pour déployer un certain nombre d'observateurs internationaux. Alors, aujourd'hui, le pouvoir procède à des arrestations régulières. Ces arrestations, effectivement, visent toute personne qui est suspectée de ne pas épouser l'idéologie du parti CNDD-FDD. Aujourd'hui, la milice Imbonerakure, cette jeunesse du parti au pouvoir instrumentalisée et militarisée, procède à des arrestations régulières au quotidien des voisins. Alors, effectivement, comme Nkurunziza, dans sa démagogie de vouloir se maintenir au pouvoir, Nkurunziza avait voulu ethniciser la crise. C'est pour cela, au fait, qu'aujourd'hui, c'est souvent des membres de la communauté Tutsi qui sont ciblés par cette répression sanguinaire du président Nkurunziza. Aujourd'hui, on assiste à des arrestations chaque jour. Difficile de savoir aujourd'hui des chiffres exacts, parce qu'il n'y a pas d'observateurs, comme je viens de vous le dire. Même les quelques informations qui nous parviennent sont obtenues difficilement par quelques collègues à nous qui sont sur le terrain, ou bien quelques agents, donc quelques sources d'informations dont nous disposons au sein de la police, au sein même de cette milice Imbonerakure, parce que nous avons toujours des gens qui sont enrôlés dans cette milice Imbonerakure, qui nous fournissent des informations, mais qui ont peur de quitter le mouvement, parce que même après, ils pourraient être assassinés ou tués. Alors, les gens sont régulièrement arrêtés. Il suffit de voir l'actualité en provenance du Burundi, l'actualité qui sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des photos, il y a toujours des cadavres qui sont retrouvés, des personnes arrêtées, mais qui sont retrouvées mortes. On ne sait même pas dans quelles circonstances. Aujourd'hui, il faut interroger les rapports des Nations Unies, le rapport par exemple du Haut Commissariat pour les réfugiés. Des gens des Burundais continuent d'affluer en masse vers les pays comme la Tanzanie, le Rwanda, le Congo. Mais toutes ces personnes, elles fuient la répression, elles fuient ces arrestations régulières. Alors, elles fuient aussi ces disparitions forcées auxquelles on assiste au Burundi. Il y a, je pense, plus d'1 millier de personnes qu'on a déjà identifiées, qui ont été arrêtées, mais dont on ne sait plus les nouvelles, on n'a plus de nouvelles. Donc, et certains, nous avons des informations qu'ils ont été exécutés. C'est pour cela, par exemple, que dans le rapport de la FIDH, on parle des fosses communes, le phénomène de fosses communes au Burundi. Il y a plusieurs fosses communes qui cachent des cadavres des personnes portées disparues. Donc, dont on ne sait plus les nouvelles, on n'a plus les nouvelles. Donc, et ça ne cesse pas, même aujourd'hui, même hier, même demain, le pouvoir fait la même chose parce que le pouvoir s'est fixé comme mission d'arrêter, de réprimer toute personne peut-être soupçonnée de ne pas épouser cette idéologie du parti au pouvoir. Donc, voilà pourquoi ça fait peur. La situation fait peur au Burundi aujourd'hui et malheureusement, on voit que même tous les efforts de la communauté internationale sont quelque part voués à l'échec parce qu'il y a un gouvernement le plus imperméable du monde qui chaque fois rejette toutes les propositions, toutes les conclusions des organisations internationales comme les Nations Unies, comme l'Union africaine. Voilà.
Oui, on va revenir d'ailleurs sur les recommandations, etc. Mais je voudrais peut-être rebondir sur quelque chose que vous dites, c'est que effectivement tout le monde est visé. Alors on a parlé des Tutsis qui sont particulièrement visés, mais finalement cette répression, elle va toucher tout le monde. Et par exemple, je me tourne vers vous, Jean-Daniel Ndikumpana. On a l'impression que par exemple pour les personnes homosexuelles, cette répression organisée va être aussi l'occasion de réprimer les homosexuels. Donc, ils sont encore aussi, eux, touchés par cette répression actuelle.
Oui, oui, oui. Là, c'est pour cela même que j'ai dit que, donc, il y a beaucoup de membres de la communauté. Donc, il y a de notre communauté voilà, qui ont fui le pays, maintenant qui sont au Rwanda, comme Bob vient de le dire, au Rwanda, au Kenya, en Ouganda. Alors que aussi, on sait que même, donc, il y a l'Ouganda ou bien le Kenya, c'est un pays homophobe. Mais sinon, ils sont obligés d'y aller là-bas parce qu'ils ont peur que les Imbonerakure, voilà, peuvent profiter. Il y a de cette situation pour les assassiner ou bien pour les amener donc en prison. Voilà, c'est pour ça que maintenant la plupart la plupart ils ont déjà quitté, même les vrais activistes voilà, qui peut changer quelque chose donc là au Burundi, tout ce travail dans des autres pays frontaliers, oui.
Oui, et ça touche aussi évidemment les journalistes, ceux qui défendent la liberté de la presse, qui eux aussi ont dû partir, qu'ils soient Tutsi ou tout.
Ah oui, 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 absolument. Bon, un peu pour appuyer les propos de mon ami Daniel, c'est que déjà la communauté LGTB d'abord, elle était sous menace déjà. Avec la promulgation de cette loi
en 2009,
c'est ça qui pénalise l'homosexualité en 2009. Alors, dès lors que cette communauté devient la cible du pouvoir d'une façon juridique, elle est en fait la cible. Elle devient automatiquement la cible de cette milice Imbonerakure. Parce que pour eux, ou bien même certains policiers indisciplinés, c'est pour dire que la crise qui a été déclenchée par le troisième mandat du président Nkurunziza en avril est déjà multiforme dans le sens où il réprime toutes les catégories de personnes non désirées par le pouvoir en place. Ils ont décidé de faire taire toute voix discordante, de faire taire toute voix critique et c'est ainsi que, par exemple, ils ont détruit nos médias. Ils ont détruit les médias avec la tentative du coup d'État en mai 2015. Mais les gens oublient, ont tendance à oublier que le pouvoir avait déjà fermé nos médias bien longtemps avant cette tentative de coup d'État. Moi, j'ai pris la décision de quitter le Burundi 2 semaines avant la tentative de coup d'État, le 8 mai. Dans une semaine, le 8 mai 2015. Mais le 27 avril 2015, le gouvernement du Burundi avait déjà pris la décision de fermer officiellement notre radio et en violation de toute procédure régulière. Donc, parce que notre radio, elle a été fermée par les services de renseignement de Nkurunziza, cette police présidentielle, elle a été fermée par la milice Imbonerakure qui était présente lors de la fermeture. Donc, voilà, moi j'ai décidé alors de quitter le Burundi, mais il faut voir, c'est tous les journalistes et des médias indépendants qui ont été par la suite réprimés et ciblé. Et c'est dans ce cadre que parmi la centaine de journalistes en exil aujourd'hui, et d'ailleurs je pense que la majorité sont des Hutus, de l'ethnie même du président Pierre Nkurunziza. Alors un peu pour dire que Nkurunziza pour tuer, pour réprimer, il n'a pas de préférence ethnique. Bien sûr, il vise beaucoup plus les Tutsis parce qu'il voudrait ethniciser la crise afin de contourner le vrai débat
Oui, en réalité, très bien. En fait, ils jouent sur le discours du eux ou nous, voilà, en disant que finalement, c'est eux. Si on ne les attaque pas, c'est eux qui vont finalement nous attaquer.
Voilà.
Mais en
voilà.
même temps, derrière, il y a une idéologie plus large de juste on attaque les opposants.
Ah ben voilà, 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 voilà. Et surtout, je pense que c'était une stratégie du président Nkurunziza de vouloir maximiser un certain nombre de supporters, parce qu'effectivement, quand il désigne les Tutsis comme l'ennemi, ou bien comme ceux qui sont derrière la contestation, parce que c'est comme ça qu'il enseigne, c'est comme ça qu'il dit même dans des discours, quand il dit que ses collègues Hutus, tous ces gens, tout ce monde, les anciens vice-présidents, tous ces généraux, des anciens compagnons de lutte à lui, qui ont quitté le Burundi, il les prend pour des cons, il dit que ce sont des gens qui ont été manipulés par les Tutsis. Donc, et surtout, même quand il parle de la communauté internationale, imaginez, c'est stupide de sa part, bien sûr, quand il parle de la communauté internationale, par exemple, la Belgique aujourd'hui, c'est devenu sa proie facile. Quand il parle même de des États-Unis, ils disent que ce sont ces Blancs qui voudraient réinstaller les Tutsis au pouvoir. Donc, il a un discours plein d'amalgames, mais tout ça, c'est effectivement dans le but de manipuler la masse Hutu, pour voir s'il peut se faire le maximum de soutien possible. Mais heureusement, cette démarche tarde vraiment à réussir. Et je parie même que ça ne va pas réussir.
Alors, on va parler de vos espoirs, des recommandations. Mais je voudrais juste une minute refaire un petit point sur les Imbonerakure. Parce que vous l'avez dit, c'est des ministres de jeunes. Est-ce que vous pourriez nous dire concrètement qui sont ces Imbonerakure pour ceux qui ne connaîtraient pas en quelques mots, c'est qui concrètement ces Imbonerakure?
Bon, au départ, les Imbonerakure, ce sont ces jeunes de la Ligue et du Parti au pouvoir, de la Ligue des jeunes. Sauf que au sein des DFDD, ils ont pris une grande partie de cette jeunesse, une jeunesse non éduquée, une jeunesse en chômage, une jeunesse vraiment désœuvrée. Alors, ils les ont enrôlés dans une sorte de milice. Parce qu'aujourd'hui, il faut le souligner, les Nations Unies ont déjà qualifié la jeunesse Imbonerakure du sein des DFDD comme une milice. Donc c'est officiel, c'est internationalement connu, c'est une milice parce qu'ils ont d'abord été enrôlés activités militaires alors qu'ils sont des civils. Ils sont allés sur le territoire congolais en 2012 pour subir des entraînements paramilitaires. Là-bas où ils sont sur les collines, ils ont reçu des armes. Alors aujourd'hui, c'est une milice à part. Donc ce n'est plus une jeunesse politique du parti CNDD-FDD, mais c'est une milice qui tue. C'est une milice qui arrête tous les opposants jugés par le pouvoir. C'est une milice qui viole les femmes, les filles. Il faut voir ce qu'elles font. C'est catastrophique. On a vraiment de la peine à croire qu'on est dans un pays normal, qu'on est vraiment au 21e siècle.
Alors effectivement, on voit, ils ont été formés déjà il y a longtemps, donc on voit clairement que c'est le fruit aussi d'un plan prémédité clairement de la part du président. Alors je voudrais qu'on écoute une nouvelle fois Flore Angel qui nous parle finalement des réactions de la communauté, ou plutôt des non-réactions de la communauté internationale, suite notamment à ce rapport de la FIDH, donc la Fédération Internationale des Droits de l'Homme.
C'est le triangle des Bermudes de la politique internationale, d'abord parce que c'est un petit État qui a peu d'intérêt géostratégique immédiat dans un monde qui en contient beaucoup et qui contient déjà beaucoup de conflits et de problèmes. Pour l'Afrique uniquement, les questions antiterroristes, le Soudan du Sud, la situation dans la RDC voisine, etc., sont déjà des préoccupations majeures de la communauté internationale. Et au regard de ça, le Burundi semble un enjeu bien faible dans l'agenda politique international. Pour autant, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que la plupart des États influents de la communauté internationale, et je parle évidemment y compris des pays de l'Union africaine en première ligne, l'Union africaine, savent très bien que la situation est déplorable au Burundi, catastrophique, et même potentiellement extrêmement explosive, puisque le dernier conflit, la dernière guerre civile entre 1993 et 2000, a quand même fait plus de 300 000 morts dans un pays de 10 millions d'habitants. C'est quand même énorme. Et on voit la capacité conflictuelle possible au Burundi est quand même extrême. Et malgré ça, la communauté internationale ne fait pratiquement rien. adopte des résolutions, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais qui ne sont pas appliquées, qui ne sont pas respectées par le gouvernement.
Alors, une réaction peut-être par rapport à ça, l'un et l'autre. Est-ce qu'au niveau de la communauté internationale, est-ce que vous avez encore des espoirs dans le fait qu'elle va réagir et qu'il y a des choses qui vont être faites? Alors, peut-être Bob Rugurika d'abord.
Bon, je ne dirais pas que je suis déçu ou bien que je n'ai plus d'espoir en la communauté internationale, mais et tout de même, je dois constater avec vous aussi que la communauté internationale tarde vraiment à réagir. Et cela, je pense que c'est dû aussi à cet entêtement du pouvoir et à cette imperméabilité du gouvernement burundais qui refuse, qui rejette à tout moment des propositions émises par exemple de la communauté internationale, notamment par exemple les résolutions des Nations Unies qui sont rejetées, non seulement qui ne sont pas appliquées mais qui sont rejetées officiellement et diplomatiquement par le gouvernement de Bujumbura. Ce qui devient anormal pour moi, c'est quand la communauté internationale, par exemple notamment l'Union africaine, sort une résolution et que le gouvernement burundais décide lui-même ce qui va être appliqué et ce qui ne va pas être appliqué et l'Union africaine se plie par rapport à ces caprices du gouvernement burundais. Pour moi, c'est ça que je ne comprends pas. Alors, d'où des fois je pense qu'il y a aussi une mauvaise diplomatie qui s'applique sur le Burundi. Je comprends mal comment le Conseil de sécurité des Nations Unies peuvent voter une résolution qui porte sur le déploiement de 228 policiers. C'est la récente résolution des Nations Unies. Et que le Burundi, le gouvernement burundais dit on n'acceptera jamais un policier sur le territoire burundais et que les Nations Unies se plient aussi face à cette volonté du gouvernement burundais. Et là, je comprends que je me dis que la volonté vraiment n'est pas là. On ne voit pas de volonté réelle de la part de la communauté internationale vraiment de réagir. Et des fois, c'est là où je pense qu'il y a des incohérences au niveau de l'action diplomatique où ça me ramène à penser qu'au sein même de cette communauté internationale, il y aurait des soutiens obscurs à Pierre Nkurunziza. Des fois, ça me ramène à penser à ça.
Alors, peut-être plus spécifiquement sur l'avenir des droits des personnes LGBT au Burundi, Jean-Daniel Ndikumana, est-ce que vous avez l'impression, depuis que vous êtes ici en Belgique, que vous êtes accueilli dans des structures au niveau européen, des structures aussi à l'ONU, pour parler des droits LGBT au Burundi et plus largement en Afrique, est-ce que vous avez quand même l'impression que certaines choses bougent et que vous êtes entendu?
Moi d'abord oui, voilà, moi je peux dire que au niveau international on est entendu, mais exactement les présidents africains, là je parle en général, les présidents africains, ils ne changent rien, tu vois, ils n'arrivaient pas à changer donc les décisions là directement. Donc je prends quand le 22 avril 2009, quand notre président donc a signé la loi contre l'homosexualité, beaucoup des organisations voilà, ils étaient contre, ils disaient non, il faut que là, il faut que tu changes, des choses comme ça. Mais jusqu'à maintenant, on n'a vu rien. Les rapports, il y a les rapports sur les droits humains, voilà, sur le Burundi. Toujours, il y a le volet, voilà, sur l'homosexualité. Donc, on en parle comme ça, mais exactement, ça ne change rien. Voilà, ça montre que exactement, il n'y a pas la pression, voilà, au niveau de la communauté internationale. Là, je donne un exemple. Un exemple, en 2008 ou bien 2009, c'est la radio qui nous donnait donc,
oui, il y a le droit de parler, c'est ça. La radio de Bob Rugurika était la seule qui vous donnait effectivement la parole pour changer justement ces mentalités.
Voilà, mais maintenant, il n'y a plus de radio, c'est ça le problème.
Ouais, aujourd'hui. C'est ça.
Je dis qu'on a beaucoup donc, de choses à faire, on a beaucoup de travail à faire, mais au niveau du Burundi, je pense que c'est très, très, très difficile. Même quand je dis que c'est très difficile, c'est parce que voilà, il y a pas aucune partie politique que j'ai déjà entendu va qui nous soutienne. On n'a pas aucune partie politique, voilà, il y a qui nous accepte en fait.
D'accord.
Oui.
On va continuer à suivre la situation au Burundi dans les prochaines semaines, l'évolution des atteintes aux droits de l'homme dans le pays. Mais donc, je le rappelle, Bob Rugurika, vous êtes journaliste burundais, aujourd'hui en exil, et Jean-Daniel Ndikumana, vous travaillez au sein de la Maison Arc-en-Ciel de la province du Luxembourg. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Belle soirée à tous.
En quête de sens
sur la première.